faire quelques remarques sur le calendrier. Pour nous, tel que ça se présente, Pessah vient après Pourim. On vient de passer Pourim et dans un mois, ce sera Pessah. Il faut préciser, Pourim, c'est le 13e mois de l'année. C'est le 13e mois de l'année quand on s'intéresse, quand on prend comme repère l'année qui commence au printemps. L'année qui va commencer au début du mois suivant, du mois qui vient, au début du mois de Nissan. Cette année-là, qui commence au mois de Nissan, c'est l'année spécifiquement juive. Il y a une année qui est aussi l'année juive, dans laquelle nous avons Rosh Hashanah, etc. Mais c'est une année qui est aussi l'année pour le reste du monde, en fait. L'année spécifiquement juive, c'est l'année qui commence au printemps. C'est la Chodesh HaZelachem, celle qui commence et qui va commencer bientôt. Donc, et il ne faut pas se tromper, c'est vrai que on a Pourim d'abord et Pessah ensuite, mais en réalité, ce n'est pas sur le même plan. C'est-à-dire que Pourim, c'est la fin d'une année qui a donc commencé au printemps dernier et qui a passé par toutes les étapes et on est arrivé à Pourim. Et maintenant, on change de niveau, on va à un niveau, disons, plus élevé, on espère que c'est plus élevé, et on va commencer une nouvelle année à partir de Pessah. Donc, c'est pas du tout que Pourim précède Pessah. Pourim, c'est la fin de l'année, et Pessah, c'est le commencement de la nouvelle année. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que à Pourim, on a vécu un miracle extraordinaire, le Nafochou, c'est-à-dire il y avait un projet de destruction du clan Israël. Donc, si vous voulez, à la fin de l'année dernière, à la fin de la dernière année, celle dans laquelle on est encore un petit peu, quelque part, le peuple juif a passé par un moment où il était question de sa disparition totale. Un projet de disparition complète du clan d'Israël. Il y a eu un miracle. Ce miracle a fait que, Venafochou, les choses se sont renversées, changement de pouvoir, le haut est tombé en bas et ce qui était en bas est remonté, est monté à la surface. Et on a eu ce grand miracle. Ce miracle-là, il est tout à fait, il faut bien prendre conscience, la grandeur de ce miracle, c'est qu'il s'est déroulé dans une période qui s'appelle une période de Hester Panim, où le visage est caché. Le visage dont on parle, c'est le visage, c'est la présence divine. C'est-à-dire, on est dans un moment où effectivement, Akadosh Baruch Hu ne se donne pas à voir. Il se donne pas à voir et il se donne tellement peu à voir que même quand on fait le récit, quand Esther a décidé de faire le récit de ce qui s'est passé du miracle, elle a tenu compte du fait qu'on est dans le Esther Panim. Elle a rédigé le compte rendu du miracle sans mention d'Hachem. Parce qu'on est dans une période où Hachem ne se montre pas. Alors, nous savons que c'est Hachem qui a tiré les ficelles. Mais quand vous lisez le texte lui-même, tel qu'il a été écrit, vous ne le savez pas. Vous ne voyez pas ça. Si vous faites l'analyse du texte en question, il y a deux clans qui luttent l'un contre l'autre, et il y a un clan qui va gagner parce qu'il va réussir à mettre une de ses femmes dans le lit du roi, quoi. C'est comme ça que ça se présente. D'accord. Et donc, il retire les ficelles dans l'autre sens. C'est un conflit de clans. C'est comme ça que ça se présente. Et c'est en cela que peut-être on peut comprendre aussi pourquoi les Chachamim ne voulait pas de ce texte-là dans le canon biblique, parce qu'il n'a rien d'un texte. Et halakhiquement même, ce texte-là, il n'est pas écrit ni avec toutes les règles d'un Sefer Torah, de l'écriture d'un Sefer Torah, ni avec toutes les règles de ce qu'on appelle l'écriture des Kitvei HaKodesh, c'est-à-dire de tout le Nach. Quand on écrit le Nach, il y a aussi des règles, des règles ensuite, des règles de pureté, d'impureté, etc. Et le texte de la Megillah n'entre dans aucune de ces deux catégories. C'est un texte complètement hors norme. Il n'est pas du tout ni comme le Sefer Torah, bien qu'il a beaucoup de points communs avec le Sefer Torah, ni comme les Kitvei HaKodesh, il a aussi beaucoup de points avec eux, mais il ne correspond ni à l'un ni à l'autre. Et l'important, c'est qu'on a affaire à un miracle qui se passe dans la nature des choses, quoi. Les choses ont l'air de, bon, ça s'est déroulé comme ça, hein, c'est... Alors que maintenant, on va passer à Pessah. Et à Pessah, c'est exactement le contraire. À Pessah, les Nissim sont des Nissim glouim, des Nissim visibles par n'importe qui, même les Égyptiens les ont vus, tout le monde a vu les Nissim en question. Les Nissim énormes. Mais Hachem intervient dans l'histoire de façon patente. C'est exactement le contraire, si vous voulez. Donc, on a cette idée que au début de l'histoire, parce qu'on peut considérer que Pessah, c'est le début de l'histoire du clan Israël, au début de l'histoire du clan Israël, Hachem intervient de façon visible. Mais pour toutes sortes de raisons, plus on avance, moins Hachem intervient de façon visible. Il intervient toujours. Hachem, la fameuse question à Yesh Hachem et Kirbeinu Imaïn, c'est sûr que Hachem, Yesh Hachem et Kirbeinu. Mais même s'il ne se manifeste pas ouvertement, parce qu'on ne mérite pas qu'il se manifeste, ou parce que pour une raison que lui connaît, que nous ne connaissons peut-être pas, il ne veut pas se manifester à la fin de l'histoire biblique, finalement. Parce que Esther, c'est la fin de l'histoire biblique. Le reste de ce qui se passe après l'histoire d'Esther, c'est Hanouka, ça, c'est plus inscrit dans le canon biblique. C'est l'histoire juive, bien sûr, mais elle n'est plus écrite dans le Tanakh. Elle ne fait pas partie du Tanakh. On n'a pas de texte sur Hanouka ou sur la suite des événements. C'est fini. Le canon est fermé. Il s'est ouvert très difficilement pour laisser entrer Megillat Esther. Mais maintenant, c'est fini. C'est fermé, complètement fermé. Alors, on va passer à Pessah. Alors, Pessah, c'est Chag HaMatzot. C'est la fête des Matzot au sens où durant 7 jours, tu vas manger les matzot. Parce que la Torah nous prescrit que on va manger les matzot. C'est une des mitzvot de la Torah de manger les matzot. Essentiellement le premier soir de Pessah, mais si tu veux manger du pain, il faut manger les matzot. Tu veux manger des pommes de terre, tu peux manger des pommes de terre. Ou le cas échéant, tu peux manger des fèves, mais si tu veux manger quelque chose qui ressemble à du pain, tu dois manger les matzot. Ça, c'est 7 jours. C'est ça, Chag HaMatzot. Il se trouve que cette fête, on l'appelle aussi Chag HaPessah, mais ce qui est un peu un abus de langage, parce que le mot Pessah, il vient attaché à ce qu'on appelle le Korban Pessah, et le Korban Pessah, c'est aussi une mitzvah de faire le Korban Pessah et de le manger. Mais ça, c'est seulement le premier soir de cette fameuse semaine de Chag HaMatzot. Et donc, le premier soir qu'on appelle Pessah, c'est bien éventuellement le premier jour. Mais la suite, pourquoi ça s'appellerait Pessah, on ne sait pas vraiment. Il n'y a plus de trace du Korban Pessah. Mais comme ça, ça s'appelle Pessah. Mais en réalité, dans la Torah, ça s'appelle Chag HaMatzot. Donc, on a une mitzvah de, bon, bah, je dis en passant, de manger ce fameux Korban Pessah. On reviendra bien sûr là-dessus. Alors, ce qui est important, si on voulait, pour nous, c'est justement que ce fameux premier soir de la fête de Pessah, il n'y a pas seulement qu'on va manger des matzot, c'est qu'on va les manger d'une certaine manière, pas toute seule, on va les manger avec le Korban Pessah, avec des herbes amères, etc. Vous savez tout ça. Et puis surtout, il y a ce soir-là une mitzvah tout à fait particulière qui se dit dans le texte de la Torah, ça, il est dit « V'lihigadta levincha » « Tu raconteras à ton fils, à ton enfant, tu raconteras. » Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Tu vas lui raconter toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Il racontait « Yetziat Mitzrayim ». Tu vas lui raconter. C'est ça la mitzvah de la soirée de Pessah. Et c'est un récit agrémenté du boire et du manger. Donc, tout ça, c'est rituel, bien sûr. Et c'est une soirée très ordonnée. Ça s'appelle Léla Seder. Les choses sont dans l'ordre. Il y a une gradation, il y a une organisation de la soirée bien précise. Et l'organisateur de la soirée, c'est ce Vehigata Levinfra. Tu raconteras à ton enfant. Dans la Torah, hein, ce pasouk de Vehigata Levinfra, tu vas lui raconter, etc. Mais pourquoi est-ce que tu vas le raconter? Pourquoi il faut le raconter? Qu'est-ce qu'on va raconter? Alors, c'est écrit que, comme vous savez, il y a eu 10 makot, et vers la fin des makot, la dernière tranche de makot, en quelque sorte, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, d'Israël, en fait, que voilà, je fais tous ces miracles, hein. J'envoie ces makot sur les Égyptiens, et en même temps, les Bnei Israël bénéficient d'une Ashgaha Pratit. Ils sont pas du tout touchés par ce qui touche les Égyptiens, bien qu'ils soient leurs voisins. Et le pasouk dit, Bavurze, Asa Hashem li betzeti mi Mitzrayim. Hashem nous a enseigné à dire que c'est pour Zé, c'est pour cela qu'Hashem a fait pour moi tout ce qu'il a fait quand je suis sorti d'Égypte. C'est-à-dire, nous sommes sortis d'Égypte, chacun doit considérer qu'il est sorti d'Égypte, et que Hachem a fait pour lui toutes sortes de choses. Mais en fait, c'est quoi le bavour zé pour cela? Zé, traditionnellement, on sait que le mot zé veut indiquer quelque chose, on pointe du doigt quelque chose de précis. Alors, c'est pour quelque chose de précis, qui s'appelle zé, qui est indiqué par zé, que Hachem a fait tout ce qu'il a fait pour moi. Alors, en fait, Rashi va expliquer que le bavour zé, c'est, Hachem a fait tout ça pour que j'accomplisse ces mitzvot, certaines mitzvot, ces fameuses mitzvot de Pessah, Matzah, Maror. Donc, pour Rashi, ce qui s'est passé en quelque sorte, ces fameux Nissim, ils sont fonctionnels. Ils étaient fonctionnels. À savoir, ils ont été faits pour que je fasse des mitzvot en rapport avec ces nissim. Ça veut dire l'essentiel, ce sont les mitzvot. Et tous les nissim, Hachem a chamboulé le monde. Enseignement aux Égyptiens, enseignement aux Bnei Israël, etc. Mais tout ça, c'était pourquoi? Pour que je fasse des mitzvot. Pour que je fasse cette mitzvah qui consiste à raconter, justement, et le man te saper, je fais ça pour que tu le racontes. D'ordinaire, quand les gens racontent leur guerre, etc., bon, la guerre, elle a eu lieu et on raconte la guerre. Mais la guerre, elle n'a pas eu lieu pour qu'on la raconte. Mais ici, d'après Rashi, les miracles ont eu lieu pour qu'on les raconte. C'est tout à fait paradoxal. Hachem chamboule le monde, pas du tout parce que le monde a besoin d'apprendre toutes sortes de leçons. Non. Hachem a chamboulé le monde, ici, pour que les Bnei Israël, pour que vous et moi, nous racontions le soir du 14 au 15, on raconte, et qu'on fasse cette nuit-là, là, les mitzvot, à savoir les grandes mitzvot de Korban Pessah, Matzah et Maror. Ça, c'est la version de Rashi. Le Ramban, il pense complètement le contraire. Le Ramban, il explique les choses de la manière suivante. Il dit, HaKadosh Baruch Hu, il ne fait pas il fait pas des miracles tous les jours. Il fait pas des miracles pour tout le monde. Mais il en a fait. Et ces miracles ont été faits pour que les spectateurs ou l'agent ou ceux qui participent d'une certaine manière à ces miracles pour qu'ils en aient une élévation spirituelle. C'est évidemment une élévation spirituelle de voir que Hachem s'occupe de nous. Il s'occupe d'un ensemble de gens qui sont en esclavage, qui sont des moins que rien vus par la société égyptienne. Et Akadosh Baruch Hu les prend en charge. Et il chamboule le monde pour eux. Il va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Il va les sortir d'Égypte. Et jusque-là, il va faire toute une suite. Pendant toute une année, il va y avoir des miracles sans arrêt, des choses très, très impressionnantes. Donc, les Bnei Israël ont acquis un certain niveau spirituel. Alors, c'est un peu compliqué exactement de savoir quel est ce niveau spirituel, dans la mesure où nous savons bien que, au passage de la mer, les anges ont dit sur les Bnei Israël qu'ils étaient des idolâtres. Donc, en vérité, malgré tout ce qu'Hachem a montré avant la sortie d'Égypte et au moment de la sortie d'Égypte, les anges, a priori, qui sont objectifs, ils disent, les Bnei Israël, ils sont idolâtres exactement comme les Égyptiens. On a devant nous deux groupes d'idolâtres, les Égyptiens et les Juifs, enfin les Hébreux. Et Hachem n'a pas de réponse complète à cette fameuse interpellation des Malachim. Malgré ça, dit Ramban, les Bnei Israël ont eu une élévation spirituelle. Et du coup, le Ramban dit, HaKadosh Baruch Hu a voulu que par le souvenir de ce qui s'est passé, nous retrouvions ce niveau spirituel qu'ont eu nos ancêtres au moment où ça s'est passé devant eux. Ramban, on voit très bien, il a une démarche qui il veut perpétuer une expérience spirituelle. Comment ? Par le souvenir, c'est-à-dire le souvenir de ce qu'on a vu, de ce à quoi on a participé. Et il pense que par le souvenir, on peut faire remonter le souvenir, ça va faire remonter aussi l'expérience et l'élévation spirituelle. Je vais faire une petite parenthèse et dire que ça a l'air d'être une espèce de chita du Ramban, de procéder de la sorte. Ce qu'on avait vu quand on a dans le Shiur de Chumash, on a vu que pour Ramban, le Mishkan, pour lui, c'était un Sinaï portatif. Le Ramban dit, ce qui s'est passé au Sinaï, le dévoilement, la présence divine dans le clan d'Israël, que les Israël ont expérimenté au Sinaï, le Ramban dit, le Mishkan, c'était la continuation. Hachem va continuer d'être présent dans le clan d'Israël par le biais du Mishkan. Il sera là dans le Mishkan. Donc le Mishkan, c'est une espèce de Sinaï portatif. Les Bnei Israël vont porter avec eux l'événement, qui ne sera plus un événement du coup, ils vont porter l'élévation du Sinaï. Le Sinaï, il s'est déplacé, il était sur la montagne, maintenant il est dans le Mishkan. Quand on déplace le Mishkan, le Sinaï, l'événement, ce qui s'est passé là, qui devient un certain état, cet état, il se perpétue dans le Mishkan. De nouveau la même chose, par le Mishkan, on va perpétuer, on va refaire la même expérience, elle va devenir une expérience permanente, en fait. Bon, là, c'est pas complètement permanent, mais c'est toutes les années avec les mitzvot. Donc, ça veut dire que pour Ramban, grâce aux mitzvot, on va arriver au même niveau que ceux qui ont vu les choses, ceux qui ont vu participer à la sortie d'Égypte, ils ont eu une expérience et nous sommes invités, dit Ramban, à revivre cette expérience-là. Donc, si vous voulez, si on voulait résumer les choses, on pourrait dire que pour Rashi, l'essentiel, ce sont les mitzvot, dont les nissim, les miracles, sont au service des mitzvot. Et pour Ramban, l'essentiel, ce sont les nissim, l'élévation spirituelle qui va avec. Et les mitzvot sont au service des nissim. Elles recréent les nissim. A priori, c'est deux démarches complètement opposées, en fait. Donc, pour Rashi, ce ne sont pas les mitzvot ne sont pas le souvenir des nissim qui serait la chose essentielle. Alors, bien entendu, mais tout le contenu de la sortie d'Égypte, c'est en fait, il faut comprendre que tout ça, c'est pour que je puisse faire des mitzvot. Donc, la machloket, c'est un peu qu'est-ce qui est essentiel. Cette expérience que les Bnei Israël ont vécue et qu'il s'agit de retrouver, de perpétuer, ou bien les mitzvot qu'Hachem nous donne. L'important, c'est la mitzvah. Alors, on va voir que, en réalité, il y a des deux dans tout ça, mais au départ, ça se présente comme ça. Donc, le Ramban, quand il lit le pasuk, V'igata levincha, tu raconteras à ton fils, etc., et tu vas vous zé, à ça, Hachem, le zé, ici, C'est raconte-lui ce que tu as vu à Yetziat Mitzrayim. Parce que les mitzvot qui sont devant toi, elles font allusion à cela. Et tu peux toi aussi les lui raconter pour les lui faire partager. Tu dois les partager toi-même et les lui faire partager aussi. Partager ce qui s'est passé, c'est-à-dire les Nissim. Donc quand on va dire que Chayav Adam Lirot Tasmo Keilu ou Yatsam Mitzrayim, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se remettre au niveau dans lequel, auquel on était quand on est sorti d'Égypte. Alors, à part ça, le Ramban va dire que Alderech HaRemez, de façon allusive, le mot, le Zé de Bavour Zé, c'est le même Zé que Zé Kelivan Veu. C'est-à-dire, c'est pour son nom, pour le nom d'Hachem. D'accord ? C'est pour son Kavod, pour sa gloire, qui m'a sorti d'Égypte. Comme nous disons dans la première bracha de la Amida, Mevi Goel Livne Vnem le Man Shemo. Il va amener le Mashiach. Pourquoi? Le Man Shemo pour lui, pour son nom, pour sa gloire. Bien. Donc, il y a cet événement, cette sortie d'Égypte. Le problème, évidemment, c'est de se souvenir exactement, mais qu'est-ce qu'on faisait en Égypte? Pourquoi on est en Égypte? Alors, je fais un tout petit rappel. On peut poser une question un peu folle, mais qui est que la question, c'est à quoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde? Bien entendu, on ne peut pas poser la question « Pourquoi est-ce qu'il a créé le monde ?» au sens où je voudrais savoir qu'est-ce qui voulait passer par la tête pour créer le monde. On ne peut évidemment pas poser de questions sur Hachem, mais de mon côté, qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je vais apprendre de la création du monde ? Alors Hachem lui-même nous a dit « J'ai créé le monde pour moi. » Pour moi, ça veut dire quoi ? Hachem a créé le monde pour être reconnu comme Melech dans ce monde. Alors, vous vous souvenez, on a déjà dit plusieurs fois ce qu'il en était. Je répète, Melech, c'est un roi qui est roi parce que les sujets, ses sujets, l'ont accepté comme roi. Ça s'oppose au Moshel, qui est un tyran, un dictateur, un autocrate, si vous voulez, qui est roi contre la volonté des sujets. Il ne s'en occupe pas, disons. Je suis roi de droit divin, si on peut parler comme ça. Alors, c'est sûr que c'est un peu paradoxal de dire ça, parce que si Hachem attend d'être reconnu comme roi, c'est comme s'il se fragilisait, puisque ça, il ne pourra l'avoir que si nous voulons bien. Et s'il nous contraint de le reconnaître comme roi, alors il ne sera pas roi, il ne sera pas Melech, il sera Moshel. Donc c'est un peu paradoxal de dire qu'Akadosh Baruch Hu veut être reconnu comme roi, parce que c'est nous donner un pouvoir sur lui, quoi, si on peut parler comme ça. Alors, bien entendu, ce n'est pas la fin de tout, mais on peut l'entendre comme ça. C'est une hypothèse de travail, si vous voulez. Donc, Akadosh Baruch Hu veut être reconnu comme roi dans le monde. Donc, il a créé un monde qui est susceptible, avec des créatures qui sont susceptibles de le reconnaître. Susceptibles de le reconnaître, ça veut dire qu'elles pourraient ne pas le reconnaître. Parce que si elles ne peuvent pas faire autre chose que le reconnaître, Ce n'est pas une vraie reconnaissance. Donc, il a créé. Ça a commencé par Adam Arishon, ça a raté. Ensuite, c'est l'humanité tout entière. Alors, il y a d'abord eu un échec monstre qui s'est traduit par le Maboul, destruction du monde, quasi-destruction du monde. Puis on recommence, 10 générations de Ram. Et à ce moment-là, c'est l'échec final, c'est la tour de Babel, où les hommes, au lieu de reconnaître Hachem, ils ont décidé de chasser Hachem du monde, d'aller lui faire la guerre et de le chasser. Donc ça, c'est échec total. Donc normalement, le monde aurait dû disparaître. Ça n'aurait pas été très nouveau, puisque Hazan nous dit que Akadosh Baruch Hu, Bana Olamot Veichivan, il a créé des mondes et il les a détruits. Ok, ça serait encore un monde créé par Hachem, puis ensuite détruit. Et ça ne s'est pas passé comme ça, parce que il y a l'intervention à ce moment-là de quelqu'un qui a tout à coup un projet et n'entend même pas. On arrive mal à comprendre comment un être humain peut avoir ce projet. Et l'être humain en question, vous le connaissez, c'est Abraham. Et lui, il dit à Hachem, on va faire comme ça. Moi, je vais faire le travail avec mon peuple. Il n'a pas encore de peuple. Mais moi, avec mon peuple, on va faire le travail. Et quand le monde sera arrivé à cette reconnaissance d'Hachem comme roi, quand nous serons arrivés, nous, peuple juif, nous, peuple d'Abraham, nous serons arrivés à cela, alors on dira que l'humanité y est arrivée. Nous mettons notre réussite au crédit de l'humanité tout entière. Alors parce que, en fait, vers la fin, comme ça, l'humanité va comprendre, etc. Bon, bref, l'humanité sera réputée avoir réussi. Ça, c'est Abraham Avinu. Et Abraham va développer des idées qui sont liées à la reconnaissance qu'il a d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est des idées que bien sûr les autres n'ont pas du tout envie de reconnaître. Ils vont lui faire la guerre, ils vont essayer de le tuer, etc. Bon. Et à ce moment-là, quand la chose est embranchée, en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu va faire quelque chose d'assez extraordinaire, quelque chose qu'il avait déjà un peu fait avec l'humanité, il va faire avec Abraham un brit. Il y a déjà eu un brit dont le signe extérieur était l'arc-en-ciel. Ça, c'était un brit de non-agression, ça veut dire Hachem s'est engagé à ne pas détruire le monde, à ne pas renvoyer de nouveau un Maboul. Mais maintenant, il fait un brit positif, si on peut parler comme ça, avec Abraham Avinu. Ce brit, il s'appelle brit ben Abtarim. C'est une alliance entre les morceaux, parce que le rituel était, dans ces alliances, qu'on partageait une bête en deux, et les alliés, ceux qui faisaient cette alliance, passaient au milieu entre les morceaux. Donc, et dans cette alliance, Kadosh Baruch Hu a proposé à Abraham un choix sur le genre de peuple qu'Abraham voulait. Hachem lui a dit, il y a deux sortes de peuples. Il y a des peuples qui, et c'est la quasi-totalité des peuples qui choisissent d'être un peuple qui peut commencer petit, mais qui va grandir, qui va arriver à une apogée, etc. Puis ensuite, il va décliner et il va mourir parce que les civilisations sont mortelles, comme chacun sait. Alors, est-ce que tu veux cette trajectoire-là pour ton peuple, à charge pour toi d'arriver à faire ce que tu veux faire dans le laps de temps que durera cette vague, en quelque sorte, de vie, quoi. Ou alors, je te propose autre chose, quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Je te propose une singularité. Voilà. Au lieu de la mort, puisque c'est de la mort qu'il s'agit, je te propose une forme faible de mort. Alors, je m'explique sur la forme faible de mort. Prenons la halakha. Il y a une halakha qui dit que quand quelqu'un a tué par inadvertance, au lieu d'être condamné à mort comme il le serait s'il avait tué en toute connaissance de cause, alors j'entre pas dans le détail, il faut des témoins, tout ce que vous voulez, mais au lieu d'être puni par la mort, il est puni par ce qu'on appelle le galout ou l'exil. Alors en quoi est-ce que c'est une forme de mort? C'est que quand vous voulez dire que quelque chose existe, alors vous dites que la chose a lieu. Et quand elle n'existe plus, bon, elle n'a pas lieu. Or, pour exister, donc chacun a un lieu. Le lieu s'appelle, en hébreu, ça s'appelle makom. Et c'est ce que Chazal disent, que toute chose dans le monde a un lieu. C'est comme ça qu'elle existe. Sauf HaKadosh Baruch Hu qui, lui, n'a pas de lieu, il est le lieu du monde. On existe en lui, si on peut parler comme ça. Celui qui vit, il a un certain lieu. Il a lieu à tel et tel endroit. Il a lieu à Paris, voilà. Maintenant, quand on l'envoie à Galout, ben, d'une certaine manière, il n'a plus son lieu. Il n'a plus lieu là où il avait. C'est son lieu. Alors, il va être à un endroit où il va être accepté. Mais ce n'est pas vraiment son lieu. Il n'a plus de lieu. Il n'existe plus vraiment. Mais néanmoins, dans ce cadre de la ville refuge, parce que c'est comme ça que s'appellent les endroits où on fait vivre les gens qui vont en galoute, ils vont dans une ville refuge. C'est des villes qui sont administrées par les Lvim. Les Lvim sont des gens qui n'ont pas de terrain, mais ils ont des villes. D'une certaine manière, de ce point de vue-là, ces villes-là ne sont pas des lieux, si on peut parler comme ça. Alors, on va lui recréer tout son environnement dans cette ville refuge. D'accord, s'il était reçu Shiva, on va lui amener sa yeshiva. S'il est un élève, il va y avoir son rav, etc. Donc on va recréer, sauf qu'il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui. Eh bien, quand je me crois proposer à Avraham Avinu, la même chose, à l'échelle du peuple. Ton peuple va être étranger, il va être en galoute, en exil, chez un peuple qui n'est pas le sien, dans un lieu qui n'est pas le sien. C'est-à-dire, ça va être la caractéristique d'Israël. Nous avons un lieu en Eretz Israël, mais la majorité des années d'existence du clan d'Israël, on n'était pas dans notre lieu. Le clan d'Israël, d'une certaine manière, n'avait pas lieu. D'une certaine manière, on peut se demander, est-ce qu'on n'existe pas au sens habituel du terme? C'est pour ça que les fameux historiens n'arrivent pas à nous classer, etc. Parce que nous n'avons pas de lieu. Plus exactement, nous avons un lieu, mais nous n'habitons pas notre lieu. Et Avraham Avinu a choisi ce mode-là. Ça évite la mort. Mais on doit quand même avoir quelque chose qui ressemble fortement à la mort. C'est que justement, quand ils sont en exil, les Bnei Israël, c'est pas qu'on va leur créer des conditions comme l'individu qui est tué par inadvertance. Hachem a dit à Avraham, ton peuple, il sera effectivement en galoute, en exil. Seulement, loin de lui créer les, etc., il va être réduit en esclavage. Il va souffrir, on va le faire souffrir, etc. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Donc, à la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on faisait en Égypte pour avoir eu besoin d'en sortir? C'est que bon, on y était là parce que ça faisait partie du deal du Brit entre HaKadosh Baruch Hu et Abraham Avinu. Alors, en vérité, ils pouvaient nous faire travailler peut-être un peu durement, les Égyptiens, mais ils ont exagéré, ils nous ont torturés, en fait, au lieu de nous faire travailler. C'est pour ça qu'ils ont été punis. Ils n'ont pas été punis parce qu'ils nous ont fait travailler. Parce que ça, ils avaient le droit de nous faire travailler. Alors maintenant, Avraham Avinu, il n'a jamais accepté formellement que le galout ait lieu en Égypte. Il devait y avoir un galout, mais c'était ouvert. La question était, il n'y a pas, l'Égypte existait, mais Hachem n'a pas dit, ton peuple sera exilé en Égypte. La raison pour laquelle on est arrivé en Égypte, c'est à la suite de la dispute entre Yehuda et Yosef. Dispute pour la royauté, etc. C'est une dispute interne qui a fait qu'on est arrivé au lieu le plus pourri du monde, comme ça Chazal le présente, pour y passer notre période d'exil. On aurait pu aller à un endroit plus agréable. C'est aller à l'endroit qui est la grande civilisation, mais l'endroit le plus pourri moralement, etc., du monde. Et donc, cette période-là, par rapport à ce qui va se passer quand on va en sortir, cette période-là, la période d'exil, d'esclavage, etc., c'est une période, c'est la nuit en quelque sorte, c'est une espèce de chosher. Il y a eu en Égypte un chosher plus fort pendant, c'est une des makot. Mais pour nous, c'était un chosher complet. Pendant tous ces 210 ans, là-dessus, on était dans le chosher. Donc il y a toujours, avant la lumière, ça fait partie du processus de création du monde, qui est du chosher avant la lumière, avant le or. Chosher al pnei tehom, puis ensuite la lumière, ben, hi or seulement. Est-ce que c'est pour qu'on apprécie la lumière que d'abord on fait l'expérience de la nuit? Peut-être, je ne sais pas. Nous, d'une certaine manière, on va sortir de là, et à ce moment-là, notre histoire va commencer. L'histoire du clan d'Israël va commencer à ce moment-là, par cette sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est l'acte fondateur du clan d'Israël. Vous me direz, mais ça a commencé avec Abraham, bien avant. Alors, le Rambam dans Hilchot Avodah Zara, il écrit que durant cet exil esclavage égyptien, on a quasiment tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. Il n'est plus rien resté de l'enseignement d'Abraham Avinu. Il en restait un petit peu chez la tribu de Lévi, mais en gros, kimat kat, comme il dit, tout avait disparu. Donc c'est absolument terrible, ça veut dire, c'est vrai qu'on va récupérer les avot, si on peut parler comme ça. On va se rattacher aux avot. Mais pendant un certain moment, on avait quasiment coupé la relation avec eux. Parce que la relation, c'était l'enseignement, et cet enseignement, dit Rambam, il avait disparu quand même. Au point que, comme je vous l'ai dit, les Bnei Israël sont devenus idolâtres. Et ce fameux peuple, qui n'est pas un peuple en réalité, qui est un ensemble d'individus, au départ c'est une famille qui s'est élargie, 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 etc. Mais ce n'est pas encore un peuple. Et ces gens-là, bon, ben, 80% d'entre eux ne voulaient pas sortir d'Égypte. Même 80% des gens qui, quand on leur a proposé de sortir, ils ont dit non. Il faut dire à leur décharge, que sortir d'Égypte, ça ne voulait strictement rien dire. Moi, j'ai déjà enseigné ça très souvent, que pour des gens qui étaient esclaves depuis si longtemps, et que jamais un esclave n'a réussi à s'enfuir d'Égypte parce que l'Égypte étant le Metsar, le Mitzrayim, c'est la vallée du Nil, et puis ensuite c'est le désert. Donc, si tu sors de là, tu vas mourir dans le désert. Qu'est-ce que tu vas faire? Personne n'a réussi à sortir d'Égypte. Et on leur propose de sortir d'Égypte. tout un peuple va sortir, enfin, un cinquième du peuple en question va sortir d'Égypte. Pour aller où, ils ne savent pas vraiment. Hein. On suit, Hachem a dit, on sort. Vous sortez. Il n'y a pas de promesse de... c'est pas marqué sur les tickets de voyage, c'est pas marqué où ils vont. Ils partent, ils suivent Hachem. Comme dit le Navi Yirmiya, Hachem dit au clan d'Israël, je me souviens de toi dans ta jeunesse, l'Echter Acharei Bamidbar, tu m'as suivi dans le désert. On a suivi Hachem dans le désert. Hachem nous a amenés dans le désert. Et donc, les Bnei Israël se sont retrouvés, enfin, les enfants d'Yaakov, famille élargie, ensuite avec une explosion démographique, et tout, etc., ils se sont retrouvés en Égypte, esclaves. Et Hachem, a, comme dit Rambam, il a fait ou a ça Moshe. C'est un peu spécial ce mot de Assa Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait Moshe? D'un côté, la Torah, elle prend beaucoup de précautions pour mettre l'accent sur le fait que Moshe Rabbeinu, on connaît son papa, sa maman, son frère, sa sœur. Donc c'est quelqu'un de bien connu, on sait qui sont ses ancêtres, etc. On va savoir finalement qui va épouser, elle a un nom, etc. Connaît son beau-père, etc. Mais néanmoins, le Rama dit « Où a ça, Moshe ?» Alors c'est vrai que au moment de la naissance de ce bébé Moshe, qui est né dans des circonstances particulières, etc., au moment de sa naissance, il y avait de la lumière. Bon. Je ne sais pas, vous, je ne sais pas ce qui s'est passé quand vous êtes né, peut-être qu'il y avait de la lumière aussi chez vous, mais je ne sais pas. Moi, on ne m'a jamais raconté qu'il y avait de la lumière quand je suis né. Bon. Je suppose qu'il n'y en avait pas particulièrement. Mais chez Moshe Rabbeinu, c'est... Bon, Hazal dit qu'il y avait de la lumière. Et bon, il était tov, etc. Il avait plein de bonnes qualités. Par ailleurs, bien plus tard, il y a les Midrashim qui disent que Moshe Rabbeinu, il avait la tête d'un gangster. Bon. Mais il était tov quand il est né. Les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves de qui? Esclaves de Paro. Esclaves du Pharaon, esclaves de Paro. Un esclave, c'est une propriété. Halakhiquement, c'est un immobilier mobile, mais voilà, c'est ça un esclave. C'est une propriété de Paro. Et dans la Haggadah, nous allons dire que si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte à ce moment-là, nous serions encore, nous et nos enfants, nos petits-enfants, nous serions encore esclaves de Paro en Égypte. Alors tout le monde pose la question, mais quoi? Ils connaissent pas les révolutions, les changements de dynastie, etc. Non, mais c'est pas ça qu'on veut dire. C'est pas qu'on serait encore en train de travailler pour Paro. Il n'y a plus de Paro. Mais si quelqu'un possède quelque chose, cette chose, elle continue de lui appartenir. Et même si il n'a plus la main dessus, mais elle lui appartient toujours. Alors, nous serions encore formellement esclaves de Paro. Et s'il y a un Égyptien ou un autre qui vient qui dit « Moi, je suis descendant de Paro, donc vous êtes mes esclaves. Ben, » si on n'était pas sorti d'Égypte, on n'aurait rien à répondre. Oui, c'est vrai, on est encore tes esclaves. C'est vrai que tu n'as pas la main sur nous, on fait ce qu'on veut, mais formellement, juridiquement, on aurait encore appartenu à Paro si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte. Et de facto, de fait, pardon, au moment de la sortie, le soir de Makat Bechorot, quand Paro recherchait Moshe Rabbeinu pour lui dire, mais partez, partez, parce que tant que vous restez ici, ça n'arrête pas de mourir chez nous. Alors Moshe a dit, un instant, il y a encore quelque chose à régler. Il faut d'abord une déclaration de ta part, ou peut-être un écrit, par lequel tu libères les Bnei Israël. Et tu déclares qu'ils ne sont plus tes esclaves. Paro ne voulait pas. Non, je ne veux pas, je ne veux pas écrire ça. Partez, mais je ne veux pas écrire ça. Alors, Moshe Rabbeinu a dit non, on ne part pas. Mais nous, on n'est pas pressés. Paro, lui, il était pressé parce que ça mourait tellement que. Voilà. Et donc, il a fini par céder. Le Midrash dit il a fait une déclaration et c'est pour ça que nous ne sommes plus esclaves Paro. C'est une information, c'est important à savoir. Vous n'êtes plus esclaves de Paro depuis quelque temps, depuis que Moshe Rabbeinu a fait signer le papier en question à Paro. Donc, on était esclaves. Et pour sortir les gens, ok, il a déclaré qu'on ne l'était plus, mais en réalité, c'est Hachem qui l'y a contraint. Bon, ça marche quand même. Ça marche, mais la vente a eu lieu, est effective. Mais c'est Hachem qui a obligé Paro. Donc, c'est Hachem qui nous a rachetés à Paro. Qu'est-ce qu'on disait? Ou Pada Otanu. Il nous a rachetés. Racheter un esclave, en général, ça se fait de la manière suivante. A priori, l'esclave qui était esclave de A, il devient esclave de B. B a acheté esclave à A. Et donc, c'est ainsi que nous sommes devenus esclaves d'Hachem. Hachem nous a achetés à Paro. Et donc, nous sommes avdés Hachem après avoir été avdés Paro. Alors, on me dirait, qu'est-ce qu'on a gagné? On a changé de maître. Oui, c'est vrai, on a changé de maître. Mais seulement le problème, c'est que quand le maître était Paro, les maîtres, en général, ils ont des intérêts, etc. Et ils font travailler les esclaves pour eux. Hachem, il a besoin de rien. Donc, d'être esclave d'Hachem, ça n'implique pas qu'on va travailler pour lui parce qu'il en a besoin. Alors, on va travailler pour lui. Il y aura une avoda. Il va y avoir du travail. Mais le travail n'étant pas pour lui, il est pour nous. Même si nous ne sommes pas toujours conscients, mais en réalité, Hachem dit, faites les choses soi-disant pour moi, et comme ça, vous les aurez vraiment fait pour vous. C'est ça l'idée. Alors, comment s'exprime notre avdout, le fait que nous sommes avadim? C'est nous sommes éved du roi. Et le roi, il prend des décrets, il impose ses décrets, et les serviteurs, ils obéissent aux décrets. Les décrets divins, ce sont les mitzvot. Et donc, nos mitzvot sont l'expression de notre avdout. En pratiquant les mitzvot, nous reconnaissons que nous sommes avdei Hachem, et donc nous reconnaissons Hachem comme notre roi, notre maître, notre roi. Rashi dit très clairement que les mitzvot, elles sont un ol al savareinu. C'est un joug sur notre nuque. Le joug, c'est vraiment ce qui nous contraint, en fait. Donc, effectivement, les mitzvot sont l'expression de notre avdout. Mais pour qu'il soit bien clair que c'est une avdout particulière, puisque le maître n'a pas besoin du travail et le travail des esclaves ne peut rien lui apporter. Il naît déjà, il a tout. il y a une mitzvah qui s'appelle Shiluach HaKel. Il y a une mitzvah qui dit que si tu veux prendre les... Bon, c'est une mise en situation. Si tu veux prendre les œufs ou les oisillons, tu dois d'abord chasser la mère. Et la Gemara dans Brachot, elle dit surtout, ne t'imagine pas que la raison pour laquelle Hachem a ordonné de chasser la mère, c'est parce qu'Hachem, il a de la tendresse, il a du rachamim pour la mère, il a pitié de la mère, donc on va l'éloigner pour qu'elle ne voit pas, etc. Si tu dis ça, hein, c'est quasiment la pécorsoute. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce sont des xérotes, ce sont des décrets. C'est-à-dire qu'Hadosh Baruch Hu a mis sur nous des décrets. D'accord ? Il nous impose certaines choses qui sont la marque de notre avdout, la marque du fait que nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses sujets. Et quel que soit le décret, quel que soit le contenu du décret, peu importe, c'est toujours la marque de ce que nous sommes, avadim. Nous sommes ses serviteurs. Et même si ces choses-là éveillent chez, comme dit Srazal, le Satan et les Umota Olam, les idolâtres, la moquerie, à quoi ça sert ce genre de mitzvot, etc. C'est tout. Ça ne sert à rien d'autre. La réponse, c'est ça ne sert à rien d'autre qu'à montrer que nous sommes les esclaves d'Hachem. Donc, en d'autres termes, toute la sortie d'Égypte avait pour but Yot Lachem l'Elohim. Hachem veut être pour nous Elohim. Il veut être pour nous Dieu Melech. Et donc, ça veut dire pour nous une avdout. C'est-à-dire, vous avez accepté ma royauté, Kibaltem Malchuti, alors vous devez aussi accepter mes mitzvot. C'est une expression de la avdout, les mitzvot. Mais en réalité, le Ramban est bien d'accord avec ça. Le Ramban, sur le pasouk qui dit « Veoto ta'avot », un pasouk dans Sefer Dvarim, Hachem dit, donc Moshe Rabbeinu nous parle là-bas, « Oto ta'avot », c'est-à-dire Hachem, lui, tu le serviras. Ramban dit, ce sont bien entendu les mitzvot, qui font que nous sommes Eved, nous appartenons comme un évêque appartient à son maître, il fait son travail avant de faire le travail, son travail personnel, même s'il a quelque chose à faire. Il y a priorité pour le travail du maître. Et Ramban dit, ayant dit ça, il te dit, je vais te dévoiler un secret en quelque sorte, et qui est en fait une règle générale. Celui qui fixe une mezouza à sa porte, il exprime par là que il reconnaît que Hachem sait tout ce qui se passe, qu'Hachem protège, qu'Hachem peut protéger, qu'il a tous les pouvoirs, etc. D'autres termes, si vous voulez, ça c'est dans la chambre du Ramban, on peut expliquer un petit peu avant, on peut dire que la mezouza qui est à la porte de la maison, elle indique quand tu entres, voilà, tu entres à un endroit où il y a une règle. C'est comme si on avait affiché la constitution qui est en vigueur dans la maison en question. Et quand tu sors, Tu sors pas dans un endroit où tu feras n'importe quoi. Quand tu sors avec ce que tu as appris dans la maison et tu sors avec des règles adéquates au comportement conformément aux lois qui sont les nôtres en tant que Avdei Hashem, les lois de comportement à l'extérieur. Il y a les comportements à l'intérieur, comportements à l'extérieur, qui obéissent toujours à des lois qui exprime notre avdout. Rabban a donc dévoilé, d'une certaine manière, le pourquoi ou le ta'am, la raison, le sens des mitzvot. Je vous ai dit, pour Rashi, l'essentiel les mitzvot, c'est le fait qu'elles expriment la havdout. Ramban, il dit que ces mitzvot, évidemment, ces gestes qui expriment la havdout, ne sont pas quelconques. Rashi sera sûrement d'accord avec ça, évidemment. Hachem aurait pu vous imposer n'importe quoi. Puisque le but de l'exercice, c'est de montrer que c'est lui le maître. Et bien entendu, on n'est pas dans un monde imbécile, un monde qui n'a pas de sens. Hachem nous enseigne dans les mitzvot. Dans les mitzvot, il y a aussi une part d'enseignement. C'est le contenu de la mitzvah, qui exprime aussi la havdout. Il y a toutes sortes de facettes de la havdout. Le Ramban, en kabbaliste, il peut en dire beaucoup de choses de ces mitzvot. Mais l'essentiel qu'il faut regarder, c'est celui qui fait la mitzvah, en plus de manifester par là qu'il est Eved, il a la possibilité de de la mitzvah. Et se demander, est-ce que cette mitzvah, telle qu'elle m'est donnée ici, est-ce que c'est le tout du tout? Est-ce qu'il y a des lectures plus profondes de la mitzvah? La mitzvah, elle impose un certain geste. Maintenant, quand tu lis, tu vas comprendre un peu plus. Tu vas t'enfoncer dans l'intériorité de la mitzvah. Il y a une intériorité, une pnimiut de la mitzvah. Ce qui est important, c'est que cette pnimiut, c'est une recherche infinie. Ça, c'est sans fin. Parce que c'est de la chokhmat Hashem qui s'exprime là. Par définition, la chokhmat Hashem, elle est sans fin. Juste pour que vous voyez un peu comment ça se passe. On vient de parler de Pourim, on a parlé d'Amalek. La Torah, elle dit, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Je me souviens qu'Amalek, il a fait la guerre. OK? Voilà. La mitzvah, elle, c'est de se souvenir, Amalek a fait la guerre, et certains disent, il faut se souvenir pour ne pas oublier de le cas échéant, quand on pourra le faire, quand un roi, dans le cadre d'une guerre, etc., on va régler le problème d'Amalek. Mais Baron Kotler, par exemple, je crois que vous l'avez dit, je crois au Chio, il dit, mais peut-être que le souvenir, c'est pas ce souvenir seulement. Le souvenir, c'est le souvenir du pourquoi est-ce qu'Amalek m'a attaqué? Tous les machalim de l'enfance qui demandent où est son père, etc. Pourquoi Amalek a attaqué? Il a attaqué parce que les Bnei Israël se sont interrogés sur la question de savoir Haïm Yesh Hashem Bekirbenu Imaïn. Est-ce qu'Hashem est parmi nous ou non? Mais cette question-là, elle est incompréhensible. Amalek, ça ne s'est pas passé l'année dernière. Les Bnei Israël qui se posent cette question sont des gens qui viennent d'assister, de participer alors, physiquement, à la sortie d'Égypte. Ils viennent de vivre une année de Makot, dont ils ont été épargnés et qui ont frappé les Égyptiens. En priori, ils vont passer la mer. De façon totalement miraculeuse. Comment ils peuvent se demander si Yesh Hashem Bekirbeinu et Elamai? Leur question, c'était pas ça, évidemment. Leur question, c'était pas est-ce qu'Hachem est maintenant parmi nous? Ils sont pas débiles. Seulement, les Bnei Israël se sont dit, tout ça, ça s'est passé sous la direction de Moshe Rabbeinu. Peut-être, Moshe Rabbeinu, il a un mérite. Il parle avec Hachem, il a un mérite tout à fait particulier. Quand il est là, bien sûr qu'Hachem, Yesh Hachem Bekirbeinu. La question c'est, Moshe c'est un être humain, il ne va pas vivre éternellement. Qu'est-ce qui va se passer quand Moshe ne sera plus là? C'est là la question, à Yesh Hachem Bekirbeinu. Est-ce qu'Hachem est parmi nous lorsque Moshe n'y est pas? On voit très bien ce qui s'est passé. Quand Moshe Rabbeinu, pendant un moment, n'était pas parmi eux, ils pensaient qu'il n'était pas là, immédiatement, ils ont fait le veau d'or. Immédiatement. Personne n'a dit, on pourrait peut-être réfléchir un jour, peut-être on s'est trompé, etc. Même Aaron n'a même pas osé, je ne sais pas s'il l'a pensé, mais il n'a même pas osé leur dire, peut-être on attend un jour. Il a essayé de gagner du temps, mais sans le leur dire. Du coup, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un problème avec Moshe Rabbeinu. Le problème, c'est pas Moshe Rabbeinu. Le problème, c'est la lecture des Bnei Israël de qui est Moshe Rabbeinu ici. Pourquoi est-ce qu'ils ont remplacé Moshe Rabbeinu par le fameux veau d'or? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Moshe? Ils ont dit Aïch Moshe, l'homme Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Mais Ribono Shel Olam, c'est pas Moshe qui les a sortis d'Égypte. C'est Hachem qui les a sortis d'Égypte, c'est pas Moshe. C'est ça. À partir du moment où tu penses que c'est Moshe qui a sorti les Bnei Israël d'Égypte, c'est fini, c'est raté. Mais c'est très difficile de penser que Moshe Rabbeinu, finalement, c'est vrai que c'est lui qui parle avec Aaron, qui parle avec Moshe, qui parle avec Paro, c'est Moshe qui fend la mer, etc. C'est Moshe partout, Moshe, Moshe, Moshe. C'est Moshe qu'on place quand les Bnei Israël ont peur d'entendre la voix d'Hachem encore une troisième fois. Ils disent à Moshe, écoute, toi tu écoutes et tu nous redis. Mais ça veut dire que pendant 8 paroles d'Hachem, pour eux, qui est-ce qui parlait? C'était Moshe. Qui est-ce qui les a fait sortir d'Égypte? C'est Moshe. C'est un grand problème. L'existence de Moshe, là où il est, si on ne mentionne pas sans arrêt que Moshe n'est que ce qu'Hachem a fait, c'est Hachem qui l'a fait, c'est Hachem qui lui donne tout le pouvoir qu'il a à chaque instant, ben on se trompe. Et si vous voulez, cette erreur-là, c'est pratiquement l'erreur qui a été commise au moment du commencement de l'idolâtrie. Au début, nous, on ne pense pas que l'humanité, elle vient d'idolâtrie et qu'elle avance vers la reconnaissance d'Hachem. Adam Arishon, il connaissait Hachem. Donc, on a commencé par s'éloigner d'Hachem. Et à un certain moment, ils ont décidé qu'ils allaient exprimer leur reconnaissance à Hachem. Ils ont eu besoin d'exprimer concrètement cette reconnaissance. Mais comment on fait? Comment on peut exprimer cette reconnaissance à Hachem? C'est tellement abstrait. Alors, ils ont décidé d'exprimer leur reconnaissance aux serviteurs d'Hachem. On ne peut pas accéder au roi, mais on va exprimer notre reconnaissance aux serviteurs les plus proches du roi. Et donc, on va apporter des cadeaux au soleil, à la lune, aux étoiles, etc. À ce moment-là, au départ, ils étaient tout à fait conscients de ce qu'était le soleil, la lune et l'étoile. Ils savaient bien que c'était les serviteurs. Mais petit à petit, c'est parti et ils ont oublié ça. Ils ont fait comme si le soleil, la lune, les étoiles, etc. étaient autonomes. Au départ, ils savent très bien qu'ils ne sont pas autonomes. Ils ne sont pas idiots. Et petit à petit, ça a glissé. Mais c'est la même chose. Au départ, je ne sais pas combien ils le savaient, mais normalement, il ne faut pas oublier un seul instant que ce n'est pas Moshe qui nous sort d'Égypte. C'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Mais même dans la Torah, il y a des phrases qui sont un peu ambiguës. Et ça, c'est le désastre. Mais c'est la condition humaine, finalement. Et c'est tellement difficile, c'est tellement abstrait. On est obligé de faire quelque chose. Le Rambam, il dit que, puisque c'est comme ça, alors il faut en tenir compte. Et pour lui, les korbanot, c'est un pis-aller. C'est une concession à l'esprit du temps. On ne peut pas demander au Bnei Israël un service d'Hachem complètement abstrait, sans aucune image, aucune représentation, aucun geste concret. Impossible. Alors Hachem a dit, OK, vous allez apporter les corbanotes comme tout le monde, mais je vais mettre des règles très, très, très strictes. Alors, on a commencé par interdire les hôtels domestiques. Et Adam, c'était permis seulement dans les hauts lieux. Après, on a supprimé tous les hauts lieux, on s'est restreint à certains endroits bien précis. Et ensuite, quand Hachem a désigné le Beth Amikdash à Yerushalayim, mais il n'y avait qu'à cet endroit-là qu'on pouvait apporter les korbanot, avec des conditions très, très particulières. Et puis après, alors maintenant, ça dépend comment on va lire. Aujourd'hui, il n'y a plus les korbanot. Alors, il y a la tfila. La avoda, aujourd'hui, c'est plus les korbanot. La avoda, c'est la tfila. Les chazal disent, à certains endroits, que la tfila, c'est plus grand que les korbanot. Donc, on n'a pas dégringolé. On n'est pas en situation de, on ne peut pas apporter les korbanot, alors on va faire la tfila. Non. Ça monte. Et donc, le problème, c'est, du coup, alors il y a la grande discussion. Est-ce que dans le futur on va de nouveau apporter les korbanot? A priori, le Rambam qui à la fois dit que c'est une concession dans le Moreh Nevuchim, mais qui en fait dans le Sefer, dans le Yad, il a mis les halachot des korbanot. Or, il met pas les choses qui n'ont pas lieu d'être, les choses qui sont entièrement du passé, il les met pas. Comme c'est pas du présent, c'est du futur. Donc, il a l'air de lire, il va y avoir des corbanotes. Donc, qu'est-ce que seront les corbanotes? On ne sait pas ce que sera le Beth Amikdash. Peut-être le Beth Amigdash, il sera en, je sais pas, en, complètement spirituel, les Corbanot seront spirituels, comment savoir. Oui, pour l'instant, nous, on travaille avec les Corbanot, maintenant. Donc, pour revenir à notre sujet, bien sûr, les mitzvot, elles ont un sens. Elles n'ont pas seulement un sens, elles ont des sens. Ça, c'est la démarche de la Torah chez Baal Peh. Tu as une question, tu cherches la réponse à la question. Si tu trouves une réponse à la question, tu te reposes la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Puis quand tu auras trouvé le derrière ça, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Ça, c'est le chemin. D'abord, il faut se souvenir de la guerre. Après, mais pourquoi la guerre? Et pourquoi le pourquoi de la guerre? Etc. On avance jusqu'à des questions fondamentales. Parce qu'on peut bien sûr continuer de discuter sur la situation de Moshe Rabbeinu. La nécessité de Moshe Rabbeinu. Donc, ça veut dire que dans les mitzvot, il y a les deux choses. Il y a l'idée d'avdout, et il y a l'idée de ta'am, ou du tochen, du contenu, du goût, du sens, du contenu de la mitzvah. Et qu'il y ait les deux choses, ça c'est ce que, quand les Bnei Israël ont dit Na'am et Nishma, on a dit qu'il y a des malachim qui sont venus, qui ont mis à chacun une double couronne, deux couronnes. Une couronne pour Naasé et une couronne pour Nishma. La couronne du Naasé, ça veut dire le Maasé, on va faire les choses, c'est-à-dire on évède, c'est l'expression de la Avdout. Nishma, et à ce moment-là, on va comprendre, on va pouvoir en avoir encore plus de connexion. Plus de connaissances, plus de chokhmah, etc. Ça, c'est le tam. Et on a l'obligation. On ne peut pas se dire, finalement, ce qui m'est demandé, je fais les mitzvot en tant que maasé. Comme ça, j'ai montré que j'étais Eved. Non, ça ne suffit pas. Il y a une profondeur des mitzvot, une intériorité des mitzvot. Et Rabbeinu Yonah dit, on est obligé de travailler ça. Ce n'est pas une option, on est obligé. Mais ça vient après la Havdout. Pourquoi je fais? Parce que je suis Eved. Après, je suis un Eved d'Hachem. Je ne suis pas le Eved de quelqu'un qui simplement est intéressé à ce que je fasse la chose. Il est intéressé à ce que je grandisse, que je devienne un associé d'Hachem. Donc, il faut que j'essaie de pénétrer le sens de ce que Hachem me donne. Mais il y a une priorité. Si on fait les choses dans le bon ordre, alors il y a un travail sur le temps. Si on avait mis les choses dans l'ordre, Nishma Venaase, le Nishma n'aurait été que une façon de savoir quoi faire. Mais pour ça, on n'a pas besoin de dire Nishma. Quand on dit Naasé, on suppose bien sûr qu'il y a un Shamati, ce qu'il faut faire. J'ai déjà entendu ce qu'il faut faire. Sinon, comment je peux faire si je ne sais pas ce qu'il faut faire? Mais de cette partie-là, je n'ai pas besoin d'en parler. C'est évident qu'il faut savoir ce qu'on doit faire. La partie fonctionnelle du Nishma, bien sûr, elle est incluse dans le Naasé. Ce dont on parle, c'est une partie du Nishma qui n'est pas dans le Naasé. Une chose pour soi, qui est une façon d'entrer dans la relation avec Hachem, dans la connaissance d'Hachem, par le biais des mitzvot. C'est comme ça, par le biais des mitzvot, par la nature, par les milotes, etc., qui nous imposent, qui nous enseignent, etc. C'est comme ça qu'Hachem se donne à comprendre, il se donne à voir, de cette manière-là. Voilà. Je suis désolé, j'ai dépassé l'heure.